Alors bonjour à tous. Donc du coup, je suis Viviani Cédric, issu d'un master 2 en urbanisme et aménagement et que j'ai validé à l'issue de mon stage auprès de Isabelle Charpentier. Donc du coup, sur les étangs réservoirs de la ligne Maginot Aquatique et la question de sa durabilité. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors une petite présentation rapide du site. Eh bien les étangs de la ligne Maginot Aquatique se situent dans la Moselle. On a six étangs qui sont dédiés à des activités de pêche et des activités nautiques principalement. Et donc les intérêts de ce site, eh bien, commencent par la genèse et son artificialité, puisqu'ils doivent leur existence à des conflits territoriaux qui ont opposé, comme on sait tous, la France et l'Allemagne. Et donc de cette ligne défensive, on est passé peu à peu à des espaces touristiques qui ont été, qui ont connu de fortes migrations à partir des années 60, des migrations estivales. Et donc, peu à peu, ce sont devenus des lieux récréatifs. On retrouve également des enjeux liés à la biodiversité, des enjeux assez forts, notamment pour l'avifaune et l'entomofaune, des enjeux liés à l'eau, surtout en période de changement climatique et de sécheresse qui sont de plus en plus accrues. Et évidemment, ce sont des étangs qui fédèrent les acteurs du territoire. Alors, on retrouve dans ces étangs tous les types de services écosystémiques qu'on peut avoir et qui ont été déduits par le MEA. Donc, on a le service d'approvisionnement qui est lié à la pêche, le service d'habitat et support, comme je le disais, surtout pour l'avifaune et l'entomofaune et évidemment l'ichtyofaune, un service de régulation, notamment pour la circulation de l'eau et du climat, et le service culturel, puisque on a un patrimoine qui est lié à la mémoire et au tourisme. On peut passer à la diapo suivante. Donc, ce travail nous a permis de mettre en place une frise chronosystémique, puisque c'était le but de ce stage, suite à un travail de bibliographie conséquent, mais également avec des rencontres des acteurs du territoire. Et cette frise chronosystémique a été présentée donc du coup au président du syndicat mixte. Comme outil d'aide à la décision. Et malheureusement, comme on a eu le Covid, on n'a pas pu participer, on n'a pas pu créer cette frise ensemble avec les acteurs du territoire, ce qui fait qu'elle a peut-être pas été mal perçue, mais difficilement perçue, puisque du coup, on a un flot d'informations qui est assez conséquent, mais qui est somme toute utile et très important pour pouvoir retracer la trajectoire de ce socio-écosystème. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'on a trois grandes périodes principales. Qui partent du coup de la gérance militaire à aujourd'hui, nos jours, les temps de la renaturation avec les prises de conscience sur les enjeux écologiques, climatiques auxquels nos sociétés doivent faire face. Et donc petit à petit, ça nous a amené à réfléchir à un modèle un peu plus opérationnel et un peu plus présentable enfin présentable, celui-ci l'est, mais un peu plus facile d'accès, si je puis dire, aux élus. Et donc c'est ce qui m'amène à la troisième diapo, le modèle opérationnel en cascade. Puisqu'on s'est rendu compte que finalement, déjà c'était un paysage qui de base n'était pas naturel, puisque les étangs ont été créés de la main de l'homme, mais on s'est rendu compte que finalement c'était les digues qui étaient vraiment au cœur de ce socio-écosystème et donc au cœur de la durabilité de ce socio-écosystème. Ce qui amène donc au modèle en cascade, avec comme structure biophysique principale, eh bien, les ruisseaux qui, par construction de la digue, ont formé ces étangs réservoirs. Ces étangs réservoirs, du coup, permettent d'apporter des fonctions, à savoir la retenue d'eau, l'habitat, l'approvisionnement, l'héritage culturel, la valeur récréative. Et ces fonctions vont permettre d'amener à des services, comme les inondations défensives qui ont permis, du coup, enfin, qui était le but de la création de ces étangs, et ensuite la pêche, le tourisme mémoriel, les activités nautiques, etc. De ces évolutions de services, eh bien, on a pu retirer des bénéfices, le bénéfice lié à la mémoire, mémoire qui du coup est liée aussi à l'identité du territoire, une certaine forme de sécurité face aux inondations, un bien-être lié au paysage, à la présence d'une biodiversité assez forte, une forme d'attractivité qui s'est malheureusement perdue avec le temps. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a fédéré les acteurs du territoire tout autour de ces étangs, ce qui fait qu'ils sont un petit peu le cœur de ce territoire. Et donc, pour continuer à maintenir ces étangs-là, eh bien, il y a une véritable volonté de préserver les digues, qui, comme je le disais, sont le cœur de ce territoire. Mais il y a également d'autres pratiques qui lient enfin, les relations entre l'homme et la nature, à savoir l'alvinage. Et les travaux de renaturation. Ces travaux de renaturation ont permis de limiter les pressions, à savoir l'usure des digues qui est liée au temps, qui est liée aux matériaux, des digues qui ont connu la guerre, qui ont connu l'usure et qui sont toujours là aujourd'hui. Et donc ces limitations des pressions, elles se font par un suivi, par la vidange et par les travaux, ce qui nous ramène du coup au maintien de cette structure biophysique et donc à cette boucle en cascade. Voilà ce que j'ai à dire sur cette présentation. Alors, vous pouvez retrouver du coup sur le poster la liste des indicateurs qui nous ont permis d'effectuer ce travail-là, avec du coup des explications un peu plus conséquentes. Comme j'avais que 5 minutes, du coup, j'ai dû faire très concis. Je
C'est
pense que j'ai tout dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Marie-Noël. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé également, comme le précédent exposé, dans le cadre de la THN2, avec pour objectif de ces cas d'études de construire des frises et ensuite de réfléchir collectivement à leur utilisation au sein de cette action transversale. Donc ici, il s'agit de l'île Urochelon. C'est un travail qui est fait par Lise Pinault en stage de Master 1, qui a été particulièrement efficace. Donc, je vous propose de voir la diapo suivante. Donc, le contexte de l'île du Rorcholen, c'est tout d'abord un espace où la forêt alluviale est au contact désormais du port autonome de Strasbourg. Et c'est un écosystème qui a été souvent sacrifié au profit d'enjeux économiques, même si on peut noter l'apparition d'une réserve naturelle à partir de 1997. Donc sur la carte de Cassini, en fait, vous noterez tout de suite que l'île n'existe pas. D'accord? Le Rhin s'étend dans sa plaine alluviale et on bénéficie à ce moment-là d'une forêt alluviale. Donc ce même constat peut être fait sur la carte d'état-major. Et puis à partir de 1950, en fait, plutôt à partir de 1872, mais ça on le reverra sur la frise. Des travaux sont mis en place et on a une rectification, une correction du Rhin qui font que les méandres disparaissent, les Tresses, le fleuve en Tresse disparaît aussi. Et à partir de 1950, en fait, on est dans une situation où il demeure une part de forêt qui n'est plus alluviale et on commence à voir les prémices du port autonome de Strasbourg. Et puis finalement, sur la carte actuelle, la forêt qui demeure est sur la gauche, la forêt du Neuhof, réserve naturelle également. Et puis, on voit ici l'île du Rorcholen qui fait 6 km de long. Donc, on voit aussi que Strasbourg s'est considérablement étendue et que désormais, le port autonome de Strasbourg, repéré ici par des usines sur la carte IGN, est vraiment au contact déjà des réserves naturelles et puis de cette nouvelle île du Rorcholen. Donc notre objectif était de reconstruire la trajectoire de ce socio-écosystème pour à la fois comprendre les mutations de part et d'autre du Rhin, puisque le Rhin est une frontière, donc France et Allemagne, hein, analyser l'évolution des relations homme-nature et questionner la naturalité de l'île. Transparent suivant. Donc nos indicateurs. Alors, ce travail en fait fait suite puisque l'île du Rorcholen est un site de la zone atelier environnementale urbaine depuis un certain nombre d'années déjà. Et une partie des cartes qui ont été utilisées notamment ont été produites dans le cadre de la thèse de David Eschbach. Donc nous, ce qu'on a pris comme indicateur supplémentaire, c'est qu'on a calculé l'indice de sinuosité dans cette zone. Nous avons regardé l'occupation du sol. Nous avons regardé de part et d'autre de la frontière le développement de la population, donc sur Strasbourg et sur Kiel, les indicateurs climatiques et puis l'état de la forêt. Donc on retrouve dans cette frise 4 périodes que l'on voit d'ailleurs sur les cartes de Cassini, état-major, IGN, etc. Donc un état initial avec une forêt alluviale et un écosystème riche, jusqu'en 1872. Et à partir de là, le Rhin est effectivement canalisé complètement. On y observe une certaine stabilité du site, des inondations moindres, mais tout de même encore présentes. Et puis, ce qui va grandement changer le devenir de ce site, c'est la guerre et le traité de Versailles qui va donner pleine utilisation des eaux du fleuve à la France. qui va, à partir de 1914, enfin, à partir de 1919, et ultérieurement utiliser le Rhin pour y implanter un certain nombre d'usines hydroélectriques. Et ces implantations vont se faire au niveau de l'île du Rorschelen à partir de 1950. Donc on y observe, du coup, avec la création de cette île, une modification profonde de l'écosystème et la fin des inondations de l'île. À partir de 1997, dernière phase, il y a globalement, alors il y avait des prises de conscience à partir des années 1970, mais qui n'ont pas été totalement suivies des faits, mais à partir de 1997, on a ce classement réserve naturelle, une restauration de la zone et allant jusqu'à, dans le cadre d'un projet Life Plus, allant jusqu'à la mise en œuvre de crues contrôlées par l'établissement d'ouvrages spécifiques. Donc, dernier slide. Donc, sur la naturalité, que dire ? Ben, que dire ? Déjà, dire que l'île du Rorschelen, c'est joli de dire qu'on a une île, mais en fait, c'est une création qui est purement anthropique, qu'avec sa création et la rectification du Rhin, on a perdu de nombreux services écosystémiques, tels que la fertilisation et l'épuration, qui étaient fournis par le Rhin et la forêt. Par contre, on a de fait l'apparition de services écosystémiques qui vont être plus anthropocentrés, donc notamment l'énergie, la navigation, qui n'était pas possible avant rectification, des activités de loisirs et puis un bien-être. Et il faut noter qu'à partir de cette frise, en fait, il est possible aussi de répondre à d'autres questions scientifiques. Dernière intervention, donc on peut noter aussi sur les cartes d'occupation du sol et sur la population, donc tout ça vous verrez dans le poster, on peut noter les trajectoires divergentes de part et d'autre du Rhin, avec une industrialisation dès les années 1950 du site, donc pas de l'île du Rorschelen, mais en vis-à-vis côté terre, côté français. L'île qui garde sa part de naturalité, à l'exception de quelques ouvrages liés à l'hydroélectricité, et puis du côté allemand, en fait, une utilisation qui était plutôt d'origine agricole. Donc l'Allemagne a développé de l'agriculture. Donc pour conclure, je dirais que l'écosystème rhénan est indivisible. Il faut noter que les aménagements hydroélectriques ont eu des impacts en Allemagne, notamment avec la baisse de la nappe phréatique. Et donc, les Allemands ont été amenés à construire, avec l'accord des Français, parce qu'il faut l'accord des Français, un barrage agricole à partir des années 1983. Et désormais, les deux pays coopèrent au travers d'institutions telles que la Commission internationale pour la protection du Rhin. Et voilà. Merci.
Donc, je vais vous présenter l'étude que j'ai menée dans le cadre de ma thèse, donc, encadrée par Séraphine Grelier, Sabine Grelich et Stéphane Rodriguez, sur la banque de graines d'un chenal latéral en Loire-Aval à Saint-Jean-de-la-Croix, donc dans le Maine-et-Loire. Next. Donc voilà, cette étude elle s'inscrit dans le projet RTMUS, restauration du lit et trajectoire écologique morphologique d'usage en Basse-Loire, et dans le cadre de ma thèse, pour aller très vite, je m'intéresse à la terrestrialisation. C'est ce que vous pouvez voir sur le petit schéma à droite. Finalement, on a un chenal latéral qui est dans sa position initiale, on va dire, soumis au flot normal par rapport au chenal principal. Et la terrestrialisation avançant, finalement, il va se déconnecter tout d'abord par l'amont, puis ensuite en phase 3 aussi par l'aval, afin d'arriver à un système qui est très déconnecté du chenal principal. Cette déconnexion progressive, cette terrestrialisation, elle va avoir un impact sur la banque de graines. Et cette banque de graines, c'est aussi le reflet de l'histoire et de la dynamique actuelle du fleuve sur l'écosystème, et elle peut aussi permettre l'expression de la végétation. Donc, on va aller à la diapo suivante. Merci. Alors, ça se lit de haut, on va suivre les flèches étape par étape. Donc, pour suivre la banque de graines sur le site du Vieux-Port Thibault, on a découpé la zone, on a découpé le bras en trois zones, on va dire, amont, centre et aval, sur lesquels on a fait quatre répétitions, on a échantillonné des sédiments au niveau du talweg et dans la berge. Ces sédiments ont été ensuite mis en culture en laboratoire avec la Seedling Emergence Method, donc méthode d'émergence des plantules pour permettre l'identification et le comptage des plantes, des espèces présentes dans la banque de graines. Suite à cette manipulation-là, donc, des analyses ont été faites. Donc, sur la première analyse, vous voyez le schéma en vert et en bleu. Nous avons les espèces indicatrices pour la banque de graines soulignée en vert et non soulignée pour la végétation en place. Donc, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que ces espèces indicatrices sont différentes selon le niveau d'élévation qu'on situe dans le talweg en bleu ou dans la berge en vert. Et on a aussi des espèces indicatrices qui sont différentes selon qu'on se situe en amont, au centre ou à l'aval de l'annexe hydraulique, du chenal latéral. Donc c'est un premier constat, des espèces qui sont différentes. Quand on passe au niveau des communautés, donc sur le graphique en dessous, qui présente des NMDS, à gauche, nous avons la banque de graines. On peut voir qu'il y a quasiment une ségrégation entre les niveaux d'élévation, c'est-à-dire que le talweg représenté en haut et la berge représentée en bas. Et que, par contre, on ne voit pas de ségrégation en fonction des zones dans la banque de graines. Quand on regarde la végétation en place, en revanche, donc sur la partie droite de ce graphe, on a aussi cette ségrégation entre la berge et le talweg, mais on peut aussi observer une ségrégation entre les zones amont, centre et aval. Ce qui est assez surprenant, puisque finalement, on parle de banque de graines, qui ne sont pas différentes a priori dans le talweg, et pourtant on a des végétations qui sont différentes dans la végétation en place à ce niveau-là. Voilà un peu pour les grands résultats. Cette étude, elle nous permet de mettre en évidence l'existence de filtres environnementaux. Notamment à l'échelle du chenal, et finalement ces différences entre communautés, banques de graines et végétation en place, il serait intéressant de comprendre comment on passe de la banque de graines à une végétation en place différente et quels sont les rôles des filtres et démêler ces implications entre les filtres biotiques et abiotiques permettrait de mieux exploiter la banque de graines comme ressource pour la restauration de ces milieux. Et aussi peut-être de pouvoir lutter contre les invasions biologiques qui sont récurrentes, voire très fréquentes, dès que l'on restaure ces milieux. Je vous remercie pour votre attention.